There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Bienvenue pour cette nouvelle émission, ravi de vous retrouver cette semaine. Nous allons partir dans l'histoire de la France médiévale pour aborder la guerre de Cent Ans. Alors la guerre de Cent Ans, l'aborder en quelques minutes est toujours un défi qui est complexe, au moins aussi complexe que le défi de maintenir l'unité du Royaume de France pendant cette guerre. Et donc nous allons y consacrer deux émissions avec mon invité, Aimable Sablon du Corail, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu à notre micro. Vous êtes historien, ancien élève de l'école des Chartes, docteur en histoire. Et vous venez de publier aux éditions Passé Composé un ouvrage sur la guerre de Cent Ans intitulé, sous-titré « Apprendre à vaincre ». Alors les ouvrages sur la guerre de Cent Ans, il y en a beaucoup. C'est un élément qui a beaucoup été étudié par les historiens. Et l'originalité de votre ouvrage, c'est que ce n'est pas un ouvrage uniquement d'histoire militaire. Évidemment, on parle d'une guerre, donc il y a des aspects militaires, mais ce que vous montrez bien, c'est que cette guerre est multiple, avec notamment un chapitre consacré à la fiscalité, on aura l'occasion d'y revenir, à la manière dont la fiscalité a contribué à ériger le Royaume de France, un chapitre également consacré à la création du discours politique et à la, on pourrait dire, la propagande véhiculée par chacun des camps. Mais première question, et on a souvent vu la guerre de Cent Ans comme un affrontement entre deux pays, la France et l'Angleterre. Puis on rajoutera les Bourguignons, on en parlera un peu plus tard. Et vous montrez que, loin d'être un affrontement entre deux pays, c'est surtout un affrontement entre deux familles, les Capétiens et les Plantagenets, les deux étant français, si on peut dire. Donc on a plutôt un conflit familial autour de la question de la souveraineté sur le duché de Guyenne. Comment est-ce que ces deux familles en sont venues à se déchirer pour la question de la Guyenne, qui, rappelons-le pour nos auditeurs, est là, en gros, la région de Bordeaux?
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que au début du XIVe siècle, le dernier fief que possèdent les rois d'Angleterre en France, c'est précisément le duché de Guyenne. Après la grande victoire des Capétiens sur les Plantagenets au XIIIe siècle, à l'issue de laquelle, eh bien, les Capétiens se sont emparés notamment de la Normandie, de l'Anjou, du Poitou, etc. Et ce dernier grand fief fait l'objet d'un conflit dès la toute fin du XIIIe siècle. Et l'objet du conflit, c'est de savoir qui va être absolument souverain sur la Guyenne. C'est pour cela que j'estime que ce n'est pas tant un conflit féodal qu'un conflit de souveraineté, puisque chacun admet la situation féodale, c'est-à-dire que le roi de France reconnaît que le roi d'Angleterre est en même temps duc de Guyenne. Le roi d'Angleterre sait bien que le duché de Guyenne fait partie du royaume de France. Simplement, cette situation ne convient plus ni à l'un ni à l'autre.
Et les Plantagenets, quel est leur lien de vassalité par rapport aux Capétiens? Est-ce qu'ils sont en autonomie ou est-ce qu'ils sont soumis dans le système féodal aux Capétiens?
Alors, du point de vue féodal, les rois d'Angleterre doivent prêter l'hommage-lige au roi de France. Alors, cet hommage-lige n'a pas beaucoup de conséquences, c'est-à-dire que la Guyenne jouit d'une très grande autonomie, aussi bien d'ailleurs vis-à-vis du roi de France que du roi d'Angleterre. Simplement, pour le roi d'Angleterre, il est très humiliant, en tant que roi, de devoir prêter l'hommage-lige à un autre roi. Voilà, donc c'est vraiment une question d'honneur pour le roi d'Angleterre. Et pour le roi de France, eh bien, la question est de savoir si, justement, la Guyenne va rester autonome ou si elle va être intégrée dans l'État royal en formation.
Et il y a ce sujet très compliqué de la filiation, de la transmission, puisque ce qu'on avait appelé le miracle capétien, à savoir que les rois de France avaient toujours eu des fils, arrive à un moment donné où, par le nombre de morts, la couronne pourrait revenir à une fille qui, étant mariée au roi d'Angleterre, donc il pourrait y avoir un changement, la couronne passée au cousin. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion-là qu'on réactive ou qu'on réactualise la loi salique pour empêcher une famille étrangère de récupérer la couronne.
Oui, tout à fait. Alors cette invention même, pourrait-on dire, de la loi salique se déroule sur une soixantaine d'années. Au début, on exclut les femmes de la succession au trône de France, sans plus de précision, et après, eh bien, on demande aux juristes, c'est un petit peu leur rôle, de justifier le fait accompli. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre une obscure disposition dans le vieux droit franc, relative d'ailleurs à un aspect seulement du droit successoral, et on en fait eh bien, une loi intangible de la succession au trône de France.
Ce qui veut dire que dès l'origine ou dès le début de la guerre de Cent Ans, la question juridique prend une importance fondamentale, et on va la voir aussi tout au long de la guerre, notamment avec l'épisode d'Henri V, lorsque Henri V, après le traité de Troyes en 1420, monte sur le trône. Enfin, cette guerre, est, en parallèle, on a aussi une construction juridique.
Oui, absolument. Alors après, toute la question est de savoir si le droit est la cause ou la conséquence d'un rapport de force. Le fait est que les historiens ont beaucoup insisté sur le travail juridique effectué par les légistes dès le XIIIe siècle. Et effectivement, dès le XIIIe siècle, vous avez beaucoup de juristes qui insistent sur tous les droits du roi sur son royaume. En revanche, c'est vraiment le contexte politique, ce sont vraiment les événements et les hommes qui vont faire que ces principes de droit vont être mis en œuvre en France, alors qu'ils ne le seront pas dans les autres royaumes européens.
Alors la guerre de Cent Ans, on la connaît essentiellement par ses batailles terrestres, Azincourt étant peut-être la plus célèbre, même si on peut se lamenter un peu qu'en fait on connaît beaucoup les défaites françaises, mais on parlera des victoires parce qu'à la fin c'est quand même la France qui gagne, on va quand même parler des victoires. Mais avant cela, je voudrais revenir sur un chapitre que vous consacrez aux batailles maritimes, en montrant l'importance de la mer. Alors ça, je veux dire que ça m'a un peu surpris parce que j'ai pas pris conscience de l'importance de la mer, d'autant qu'il y a cette terrible bataille de l'Écluse, qui est une défaite française.
Oui, en effet, il faut savoir que la guerre a commencé sur mer. Alors donc, traditionnellement, on fait débuter la guerre de Cent Ans en 1337, au moment où Édouard III va revendiquer le trône de France. En réalité, comme je l'ai dit, ce conflit commence dès la fin du XIIIe siècle, et comme il tourne autour de la Guyenne, bah, évidemment, la dimension navale aura une importance énorme, et cette dimension navale va être très bien comprise par les rois de France. Et bah, Philippe le Bel est le vrai fondateur de la marine française, c'est lui qui va inviter des Génois à établir un grand arsenal à Rouen, et il va dépenser des sommes très considérables pour bâtir une flotte de galères et de navires de haut bord pour pouvoir assurer le blocus naval de l'Angleterre et pour pouvoir éventuellement débarquer en Angleterre ou au moins en Écosse.
Ah, donc il y avait déjà un projet de débarquement, enfin de blocus, ça rappelle un peu Napoléon quelques siècles plus tard.
Oui, tout à fait. Alors notamment les rois de France étaient très conscients de la dimension économique du conflit, et donc on a un plan de guerre de la fin des années 1330. Et ce plan de guerre vise effectivement à couper déjà le trafic entre l'Angleterre et la Guyenne, puisque la Guyenne exportait énormément de vin en Angleterre. Les rois de France voulaient aussi s'attaquer à la flotte de pêche anglaise. Voilà. Et par ailleurs, autre faiblesse et atout du roi d'Angleterre, ce sont les énormes exportations de laine brute vers la Flandre. La Flandre fait à ce moment-là partie du royaume de France, et bien sûr les Flamands ont absolument besoin de la laine anglaise pour pouvoir continuer à tisser leurs draps qui se vendent dans toute l'Europe.
Oui, donc on voit que la guerre économique n'est pas une invention du XXe siècle.
Non, pas du tout.
On l'a déjà à cette époque. Et d'ailleurs, Guillaume le Conquérant, lui aussi, a débarqué en Angleterre. Donc finalement, le roi de France reprend un petit peu ces idées-là. Abordons les batailles terrestres. Alors, c'est d'ailleurs curieux cette guerre de voir que les Capétiens perdent tout le temps, mais à la fin, c'est eux qui gagnent.
Oui, comme disent les Anglais, ce qui compte dans une guerre, c'est la dernière bataille, pas la première. Et donc, en effet, on a l'impression que quasiment que les Anglais ont gagné la guerre de Cent Ans, parce qu'on réduit la guerre de Cent Ans à ses aspects militaires, on réduit les aspects militaires aux batailles, et on réduit les batailles aux seules victoires anglaises remportées plutôt au début du conflit.
Alors, il y a Poitiers, il y a Crécy, il y a Azincourt. Alors, les Anglais ont eu pour eux d'avoir Shakespeare qui a magnifié la bataille d'Azincourt dans une très belle pièce tout à fait vibrante. Mais la bataille de Poitiers, ça a été un drame parce que non seulement c'est perdu par les Français, mais en plus le roi est capturé. Ça, c'est un événement dramatique.
Oui, absolument. Alors, on a beaucoup brodé là-dessus. Et on en a fait la victoire, si vous voulez, de l'armée anglaise bien disciplinée sur une armée française tout à fait indisciplinée. Et donc on a beaucoup daubé à l'époque même sur l'orgueil, le fol orgueil de la chevalerie française et de la noblesse française. Alors il faut savoir que, contrairement à ce qu'on dit, certes l'armée française était un peu moins disciplinée que l'armée anglaise parce que l'armée anglaise était beaucoup plus expérimentée, notamment grâce aux guerres écossaises, mais globalement les Français ont obéi au roi. Et pourquoi ont-ils combattu dans des conditions défavorables? Et pas parce que finalement, l'aspect politique l'a emporté sur l'aspect militaire, c'est-à-dire qu'il était plus humiliant de laisser les Anglais repartir que éventuellement de risquer une défaite. La défaite est arrivée, mais finalement, Jean le Bon ne s'est pas si trompé que ça, puisque certes, il a été capturé, mais sa capture a déclenché un grand élan de solidarité en sa faveur, et c'est peut-être la seule fois de son règne qu'il a été populaire. Et de fait, après, le paiement de sa rançon va fonder le système fiscal moderne, système fiscal qui va permettre dans un deuxième temps, un peu plus tard, eh bien, les victoires françaises et la reconquête de la Guyane anglaise.
C'est pour payer sa rançon qu'on a créé une nouvelle monnaie en 1360 qu'on a appelée le franc.
Absolument. Le franc, on dit à cheval, puisque eh bien, sur cette monnaie, on représentait le roi à cheval, en train de charger.
Pourquoi est-ce que les Français, on emploie le terme de Français, d'ailleurs, est-ce qu'à l'époque on parle des Français, ou est-ce que c'est un anachronisme ou une construction a posteriori?
Alors, on commence à parler de Français, de bons et loyaux Français à la fin de la période. Les Français eux-mêmes se reconnaissent plus comme les sujets du roi de France. Vous allez me dire, c'est une petite nuance, mais enfin, disons que bah, il y a plusieurs, forcément, identités hein, qui s'additionnent, qui ne s'opposent pas. Mais au début de la guerre de Cent Ans, un Français au sens strict du terme, c'est plutôt un habitant de la région parisienne. Voilà. Il y a des Français comme il y a des Normands, des Picards, des Bourguignons, etc. Mais quand même, tous se reconnaissent comme sujets du roi de France, parce que le royaume de France avait une très grande réputation à l'époque, notamment grâce évidemment à sa dynastie, grâce aux Capétiens qui se sont illustrés dans les croisades, qui se sont très vite imposés comme les rois les plus pieux d'Europe.
Alors, je reviens à ma question, question initiale. Pourquoi est-ce que les Français perdent? Est-ce que c'est parce qu'ils ont une armée qui n'est plus adaptée? La chevalerie a pu être très bonne à l'époque, on pense notamment à Bouvines, oui. Mais est-ce qu'elle est devenue obsolète? Est-ce que c'est leur stratégie qui n'est pas bonne, ou est-ce que les Anglais étaient tout simplement les meilleurs?
Alors, on peut dire que les Français commencent la guerre de Cent Ans avec un énorme handicap, qui est qu'ils ont perdu l'expérience des vraies guerres. C'est-à-dire depuis une cinquantaine ou une soixantaine d'années, ils ne livraient que des conflits relativement périphériques, face aux rebelles flamands par exemple, mais ce sont plus des opérations de police que des vraies opérations militaires. Tandis que les Anglais, bah, s'ils sont bons, c'est qu'eux-mêmes ont essuyé de lourdes défaites face aux Écossais au début du XIVe siècle, et donc ils ont été obligés de totalement repenser leur système militaire. Voilà. Et le système militaire anglais est fondé sur des armées contractuelles. Donc les contingents anglais sont engagés pour une durée de 6 mois, 1 an. Et le modèle tactique est lui aussi repensé. Et donc les compagnies anglaises sont composées d'hommes d'armes et d'archers, hein, les fameux archers anglais qui combattent plutôt à pied. Et c'est ce binôme qui va faire des ravages face aux Français.
Vous parlez de contractuels, est-ce que ce sont uniquement des Anglais, ou est-ce qu'on a aussi des Écossais, des Gallois, d'autres nations?
Alors il y a des Gallois, mais il y a surtout des Anglais. Il n'y a pas d'Écossais, puisque le royaume d'Écosse à cette époque est indépendant, et évidemment les Écossais sont très hostiles aux Anglais.
Et dans ces batailles qui sont conduites, c'est véritablement, enfin côté français, la chevalerie, ou est-ce que l'armée française a d'autres éléments qui ne seraient pas de la chevalerie, des archers ou d'autres?
Oui, alors l'atout et le handicap des Français, c'est que comme la France est très très peuplée, en fait les rois de France peuvent se permettre d'avoir des armées qui sont composées quasiment exclusivement de nobles, donc de chevaliers qui combattent à cheval ou à pied. Alors s'y ajoutent quelques contingents mercenaires étrangers qui ont une compétence militaire particulière, et en particulier, au début en tout cas du conflit, les rois de France embauchent d'énormes contingents d'arbalétriers génois. Voilà, c'est leur seule force de gens de trait. Alors que les Anglais ont évidemment ces fameux archers qui composent au moins la moitié de leurs effectifs, voire plus.
Alors il y a plusieurs phases dans la guerre de Cent Ans. Il y a notamment cette première période qui est la défaite française, et puis la reconquête de Charles V qui a grignoté au fur et à mesure. D'ailleurs, en réformant l'armée, notamment pour récupérer le territoire en Guyane, Charles V est un peu oublié, alors on va l'évoquer quelques minutes, parce que c'est bien aussi de remettre à l'honneur ces rois, et notamment Charles V était particulièrement intelligent. Comment est-ce qu'il a conçu la rénovation, la réformation de l'armée française, et qu'il a pu, par quasiment une bataille de guérilla ou de petite guerre, récupérer le terrain perdu dans les grandes batailles?
Oui, alors la réforme de Charles V est là encore plus une réforme politique que militaire, puisque l'armée du duc Esclin, si vous voulez, est composée de la même manière que les anciennes armées. En revanche, le format des armées de campagne est beaucoup plus réduit. Donc on oublie les armées de 10-20 000 combattants qui se connaissent très mal, qui sont levés à la hâte, et on lève des petites armées de 3 à 4 000 hommes qui sont en permanence sur le pied de guerre, qui donc sont expérimentés. Les bannières, enfin les compagnies, les routes, comme on dit à l'époque, ont l'habitude de combattre ensemble, et du coup ils gagnent cette expérience du combat en commun qu'avaient également les Anglais. Voilà. Donc des armées plus petites, plus mobiles, en permanence sur le pied de guerre. Et pourquoi en permanence sur le pied de guerre? Eh bien parce que Charles V s'appuie sur un système fiscal qui est lui aussi totalement refondu.
Comment évolue la guerre au cours de cette guerre de 100 ans, qui a duré plus de 100 ans, mais on se dit bien qu'il y a des évolutions militaires, et notamment à la fin de l'apparition de la canonnade et de l'artillerie. En grands traits, quelles sont les grandes évolutions militaires connues au cours de cette longue guerre?
Alors, donc je vous l'ai dit, en gros, les Français combattent de la même manière avant et après les grandes défaites de Crécy et de Poitiers. À partir des années 1410-1420, les Français incorporent une plus grande proportion d'archers à cheval. En réalité, sur le terrain, on ne les voit pas trop combattre à la manière anglaise. Voilà, ils restent plutôt des combattants à cheval qui, finalement, chargent à la lance dès qu'ils peuvent. Voilà. Alors, à la toute fin de la guerre, en effet, apparaissent les armes à feu, qui ont un rôle relativement restreint. Enfin, les victoires de Jeanne d'Arc ne tiennent absolument pas à la supériorité en armes à feu. En revanche, quand même, l'artillerie a eu une importance considérable dans la mesure où elle a permis de terminer la guerre, notamment en prenant beaucoup plus facilement les places fortes. Et quand je dis places fortes, ce sont les châteaux forts. Alors qu'il fallait 6 mois, 1 an pour prendre un château fort relativement modeste, à l'époque de Duguesclin, eh bien, ces places fortes tombent en un jour ou deux au XVe siècle. Donc ça, c'est un grand... C'est quelque chose de très important, puisque finalement, la valeur stratégique du maillage de places fortes va se concentrer dans les villes. Seules les villes sont capables de s'opposer à des armées équipées d'une artillerie moderne. En revanche, les sièges de villes restent extrêmement longs, très difficiles et très coûteux.
Et ça veut dire aussi donc qu'on a une guerre qui va se déplacer dans les villes, enfin qui sort de la campagne pour aller vers les villes?
Oui, c'est ça, qui va se concentrer vraiment autour des villes fortifiées du royaume, des principales villes fortifiées du royaume, suffisamment peuplées. Voilà, dès qu'une ville dépasse les 5000 habitants, elle est très difficilement prenable, et la ville de Paris, 200 000 habitants, est absolument imprenable, parce qu'on ne peut pas l'encercler complètement, parce que les fortifications sont formidables et ne peuvent pas être abattues avec une dizaine de pièces d'artillerie. Sans compter que la population elle-même comprend une milice bourgeoise, qui n'est pas d'une valeur militaire incroyable, mais enfin qui suffit largement à tenir les remparts.
Alors abordons les victoires françaises, puisque à la fin c'est quand même la France qui gagne. Et il y a ce tournant joué par Jeanne d'Arc et... À bien des égards, très surprenant. D'abord, la personne de Jeanne d'Arc en elle-même est très surprenante aussi, parce qu'elle débarque littéralement et elle change le cours de l'histoire.
Oui, tout à fait.
Quel est son apport militaire et son apport politique à cette guerre?
Eh ben, c'est un apport... Pardon, c'est un apport qui est purement moral. Elle rend aux Français la rage de vaincre, si vous voulez. Elle leur redonne confiance en eux. Et ça, c'est quelque chose qui a été très bien perçu à l'époque, hein. C'est-à-dire qu'avant 1429, les Français perdent la plupart des batailles rangées, et après 1429, ils les gagnent quasiment toutes. Donc c'est vraiment un apport moral.
Et comment est-ce qu'elle est perçue, justement, parce que c'est une femme qui arrive dans un milieu d'hommes, elle n'a pas d'attache ou enfin, elle a aucune relation dans le tour de Charles VII et du petit royaume de Bourges. Et elle déboule comme ça, comment ça se fait pour qu'elle puisse s'imposer?
Oui, alors évidemment, ça nous paraît très surprenant aujourd'hui. Après, il faut bien sûr se rappeler que l'époque est quand même prête à croire au miracle, au surnaturel, que le surnaturel fait partie de la vie de tous les jours. Donc les prophéties circulaient un peu partout, des prophéties en faveur des Anglais ou en faveur des Français. Et donc certes, l'arrivée de Jeanne d'Arc a surpris, mais après un examen par des théologiens, etc., on s'est dit, après tout, pourquoi pas? Et bon, la personne de Jeanne d'Arc a interloqué l'entourage de Charles VII jusqu'au bout, mais elle a réussi à emmener avec elle une grande partie de grands seigneurs français qui étaient stupéfaits par ses victoires et qui se sont dit, mais oui, elle est effectivement envoyée par Dieu pour libérer la France.
Et la levée du siège d'Orléans, ça a été un élément tournant essentiel dans cette guerre ?
Oui, c'est un tournant essentiel. Alors, il faut distinguer peut-être deux choses, puisqu'il y avait deux enjeux. Donc, la succession sur le trône de France et l'intégrité territoriale du royaume. C'est-à-dire que l'arrivée de Jeanne d'Arc, donc la levée du siège d'Orléans, la victoire de Patay, le couronnement de Charles VII, ça règle complètement la question de la succession au trône de France, puisque même si les rois d'Angleterre vont continuer à s'intituler rois de France, il est bien évident qu'ils ne pourront jamais effectivement régner sur la France. Bon. En revanche, ce que Jeanne d'Arc n'a pas pu régler car elle n'en a pas eu le temps, c'est la question de l'intégrité territoriale du royaume, et après 1430, ça, la question reste tout à fait ouverte. On aurait pu imaginer que la guerre se termine par une victoire anglaise limitée, et notamment par la cession en toute souveraineté, non seulement de la Guyenne, mais aussi de la Normandie, qui était à l'époque occupée par les Anglais, et même colonisée par des milliers ou des dizaines de milliers d'Anglais.
Et parmi les autres batailles, vous avez cité Patay, là on n'est pas très loin de Chartres, dans la région de la Beauce. Et puis il y a les batailles en Guyenne. Alors la toute dernière, c'est question la bataille. Faut dire, oui. La toute dernière, peut-être que vous infirmerez, c'est peut-être pas la dernière bataille.
Sur Terre, si, si. Oui.
Cette bataille, alors, là aussi, il y a un débat chez certains historiens qui vont dire que c'est la première bataille où on a utilisé réellement l'artillerie. Comment vous voyez les choses par rapport à ça et cet usage de l'artillerie?
Oui, alors c'est vrai que là, pour le coup, on a utilisé l'artillerie en masse. Les Français avaient plusieurs centaines de pièces d'artillerie, en général assez légères. Bon. Alors après, je ne pense pas que l'artillerie ait joué un rôle très décisif dans cette affaire. Au fond, Castillon, c'est un Azincourt inversé, c'est-à-dire que les Anglais se précipitent sur des Français qui sont retranchés derrière une palissade. Donc je pense que même s'il n'y avait pas eu de pièces d'artillerie, ils auraient eu quand même quelques difficultés. Et d'ailleurs, au passage, on notera que les Français ne sont pas les seuls à charger inconsidérément des ennemis retranchés.
Et avec Castillon, c'était vraiment la récupération de la Guyenne de manière définitive ?
Oui. Alors là aussi, pour le coup, l'artillerie a eu un rôle important, puisque au XIVe siècle, à chaque fois que les Français essayaient d'envahir la Guyenne, eh bien, ils étaient arrêtés par une multitude de places fortes qui opposaient une résistance farouche, et qui rendaient finalement la conquête intégrale de la Guyenne quasiment impossible. Donc là, grâce à l'artillerie, on prend très vite toutes les places fortes qui protègent l'accès à Bordeaux, hein, sur la Dordogne et sur la Gironde, et on arrive à assiéger Bordeaux.
Et Bordeaux est pris au cours d'un siège, ou est-ce que la ville se rend ?
Alors c'est un siège, mais un siège de loin, et effectivement, Bordeaux se rend parce que les Bordelais comprennent qu'ils n'ont aucun espoir d'être secourus par les Anglais.
Alors si on fait débuter traditionnellement la guerre de Cent Ans en 1337, à quel moment on peut l'arrêter ? D'ailleurs, dans votre ouvrage, dans l'épilogue, vous la faites continuer jusqu'à Louis XI et l'affrontement des Bourguignons, parce que ensuite, c'est plus tellement la question des Plantagenets, c'est la question des Bourguignons, qui sont aussi d'ailleurs des cousins du roi de France,
oui.
Puisque si on remonte, on arrive à un des fils du roi, mais la Bourgogne qui veut devenir un royaume indépendant et qui donne bien du fil à retordre à Louis XI notamment.
Oui. Alors en fait, dans la géographie féodale de l'époque, il faut bien distinguer deux catégories de fiefs, puisqu'on a l'impression que la France de cette époque est une espèce de mosaïque et que le roi ne règne que sur son domaine royal, c'est-à-dire sur la moitié de la France, et c'est tout. En réalité, il faut bien comprendre que la plupart des grands fiefs sont déjà bien intégrés à l'État royal, c'est-à-dire que les ordonnances royales y ont cours, la monnaie royale est le plus souvent la seule admise à circuler, et le roi peut lever des impôts dans la plupart de ces fiefs. Il y a deux fiefs qui font exception, ce sont la Bretagne d'une part et la Bourgogne de l'autre. Et la Bourgogne, enfin les ducs de Bourgogne vont constituer un ensemble territorial gigantesque à cheval sur la France et sur l'Empire. Et la question, en effet, de l'appartenance de la Bretagne et de la Bourgogne au royaume de France, du moins à long terme, reste posée.
Alors la Bourgogne, je m'appuie sur une des cartes qu'il y a dans l'ouvrage, puisque l'ouvrage est composé de nombreuses cartes et passé composé fait toujours un très beau travail de publication. Mon seul regret, c'est que le nombre de bas de page ne soit pas en bas de page, mais bon, ça c'est un choix fait par l'éditeur. Mais en tout cas, la Bourgogne, c'est la région de Bruxelles aujourd'hui, c'est la région des Flandres. Donc c'est pas uniquement la Bourgogne telle qu'on la connaît aujourd'hui en France, c'est pas la région uniquement de Dijon et de la Côte d'Or.
Non, c'est même surtout les Pays-Bas en réalité.
Voilà, c'est ça, c'est les Pays-Bas et les Flandres.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, les ducs de Bourgogne tiraient les trois quarts de leurs revenus des Pays-Bas bourguignons, et ils passaient aussi le plus clair de leur temps. Ils résidaient assez peu en Bourgogne.
Et ensuite, la Bourgogne, par mariage, se rattache au Habsbourg, et donc finit également par contrôler, enfin, par être lié à Madrid et à l'Autriche.
Oui, c'est ça, c'est le grand échec de Louis XI, peut-on dire, puisque après la mort de Charles le Téméraire, eh bien, Charles le Téméraire laisse une fille unique, Marie de Bourgogne, qui a une vingtaine d'années, et eh bien, Marie de Bourgogne va épouser très vite Maximilien de Habsbourg, ce qui explique en effet que eh bien, les Pays-Bas bourguignons vont devenir terre habsbourgeoise, donc autrichien puis espagnol.
Il se rappelle ce vers de Victor Hugo qui disait je suis né à Besançon, cette ville espagnole.
Oui, ben voilà.
Donc, effectivement, Besançon a été à une époque une ville espagnole, comme Bruxelles par ailleurs. Et la raison pour laquelle les Bourguignons n'ont jamais réussi à devenir un royaume en tant que tel, sauf après le mariage avec de Marie de Bourgogne, c'est le roi de France qui a empêché ça, ou c'est également la discontinuité géographique qui rendait difficile l'établissement d'un royaume?
Oui, bien sûr, et il était difficilement envisageable de créer un royaume à l'intérieur de la France, et même à l'intérieur de l'Empire, ça posait quelques problèmes à l'empereur. Voilà. Donc déjà, sur le plan politique, sur le plan de la culture féodale, c'était difficile. Et en effet, la question de la continuité territoriale, ou plutôt de l'absence de continuité territoriale, a joué, bien sûr.
Qui décide que un prince devient roi? On l'affirme de soi-même, c'est une sorte de coup d'État, ou c'est l'empereur, ou c'est le pape qui donne la couronne et qui dit ben voilà, maintenant la Bourgogne c'est devenu un royaume.
Alors ça a pu être le cas au Moyen Âge, au début du Moyen Âge, en effet, des déclarations unilatérales de royauté, si vous voulez. À la fin du Moyen Âge, ça n'est plus possible, et donc il faut demander l'accord de l'empereur, en réalité. Et alors pendant quelques temps, Philippe le Bon, donc le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, a essayé de négocier une couronne avec l'empereur, et à un certain moment, l'empereur était quasiment prêt à lui donner, à transformer le duché de Brabant, qui appartenait au duc de Bourgogne, en royaume. Donc il aurait été duc de Bourgogne, etc., et roi de Brabant.
Merci beaucoup, amable Sablon du Corail, d'être venu nous présenter en quelques minutes ces éléments militaires et politiques de la guerre de Cent Ans. Je vous rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre de Cent Ans, apprendre à vaincre, qui est paru chez Passé Composé. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour continuer à aborder la guerre de Cent Ans. Il y a encore beaucoup de choses à dire et nous pourrons ainsi approfondir cette période ô combien importante pour la France et pour l'Europe. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt.